Nous l'avons vu dernièrement, donc pas plus tard que dimanche dernier, s'il y a bien un événement imminent qui ne doit pas nous surprendre, c'est l'enlèvement de l'Église. Ou si vous voulez, le retour du Seigneur, c'est la même chose. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, s'est adressé aux chrétiens qui se trouvaient dans l'église d'une ville qu'on appelait Thessalonique et leur a transmis, j'ai envie de dire, les grandes lignes du déroulement de cet événement que je vous propose de lire en introduction. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 18. Je vous laisse le temps de trouver ce merveilleux passage qui est un passage qui devrait consoler nos cœurs. Au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous, notre espérance, elle va au-delà de ce que le monde peut nous montrer. Notre espérance, elle va jusque dans le cœur même du Seigneur à cause de son amour qui nous prévoit, qui nous permet, alléluia, de voir cette perspective de ce paradis qui nous sera ouvert où on demeurera éternellement avec lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, nous lisons ensemble. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul de rajouter au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et en effet, ce que nous venons de lire est ni plus ni moins le sujet, un sujet de consolation pour tous ceux qui sont véritablement des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est, comme je l'ai dit dimanche dernier, l'aboutissement de toute notre marche, de toute notre vie chrétienne, de toute notre foi, les moments de difficulté, d'épreuve à cause de notre foi. Tout cela, et ni plus ni moins, nous amène vers cet aboutissement spirituel, cet enlèvement de l'Église qui nous permettra d'être définitivement à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la destination finale de notre pèlerinage terrestre, parce que nous sommes en marche. Nous sommes en route vers cette Canaan qui nous a été promis, Canaan spirituel, vous l'avez compris. D'où l'importance de ne pas rater ce divin rendez-vous, mais au contraire de s'y préparer. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, dimanche dernier. Il était important, premièrement, de s'assurer que nous ayons au-dedans de nous ce salut, parce que l'avoir, c'est une chose, mais le garder, c'en est une autre. Et je veux croire que vous tous qui êtes là présents, vous avez l'assurance de votre salut. Car sans salut, comment pourrons-nous entrer dans le royaume des cieux? Parce qu'avec le salut de Dieu, il nous permet d'être transformés en une nouvelle image, celle de Christ. Et nous sommes à l'instant même, c'est le miracle de Dieu, devenus une nouvelle création. Celui qui a connu Christ, celui qui a reçu ce salut, il est devenu une nouvelle créature. Et l'ancien Joël ne peut pas être le nouveau Joël, c'est impossible. On a d'autres objectifs, on a d'autres perspectives. On suit le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous faisons partie intégrante d'un royaume qui n'est pas visible. Jésus, quand il est venu devant ses contemporains, leur disait que le royaume des cieux est parmi vous. Finalement, le royaume des cieux, il est au-dedans de nous quand on invite Jésus-Christ. Et il devient à ce moment-là le roi. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé, pour l'année dernière et encore cette année, et pour toute l'éternité, que le Seigneur seul règne. Il est le roi des rois. Tout ce qui se passe dans ce monde n'est qu'éphémère, frères et sœurs, n'est que passager. Le Seigneur, celui qui est là sur son trône, il est au contrôle. Et il sait où il va. On a besoin de s'assurer d'être sauvé ce matin. On a besoin aussi de garder la foi. Mais la garder jusqu'au bout. Parce que la Bible dit dans le livre d'Habacuc, mon juste vivra par sa foi. Pas la foi du frère, de la sœur, ou du conjoint, des enfants, des parents. Par ta foi, mon frère, tu pourras vaincre même la puissance des ténèbres. Et tu pourras marcher jusqu'au bout. D'où l'importance de garder la foi. Et puis aussi de marcher parallèlement sur le chemin de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai beau apporter les plus belles louanges, j'ai beau prier, si je ne me sanctifie pas jour après jour, si je ne marche pas en conformité à la parole de Dieu, je ne pourrai pas non plus entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, on veut recevoir d'une manière humble cette parole, afin qu'elle puisse pénétrer dans notre cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle juge, elle tranche, elle sépare même les jointures et moelles. Et plus puisse le Seigneur nous parler ce matin. Aujourd'hui encore, j'aimerais bien insister sur l'importance de nous préparer au retour du Seigneur. Ça vous dérange ? Non, moi non plus. Et j'aimerais voir avec vous trois qualités. Trois qualités qui vont nous aider à bien nous préparer au retour de Jésus. J'aime bien simplifier les choses. Je pourrais apporter des choses compliquées, théologiques, etc. Mais je me rends compte quand je vois Jésus apporter le message, simplifier les choses. Oui, trois qualités que nous aurons peut-être dans le courant de la semaine encore à méditer dessus, etc. Trois qualités que le Seigneur a placées sur mon cœur et qui vont les uns les autres, pour chacun d'entre nous, nous aider à bien nous préparer au retour de Jésus-Christ. Première de ces qualités, eh bien, c'est d'être prévoyant. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais qu'est-ce qu'une personne prévoyante ? Eh bien, une personne prévoyante, c'est une personne qui prévoit avec perspicacité. C'est quelqu'un qui prend des dispositions en vue de ce qui doit arriver ou peut arriver. Et puis, au niveau, terme synonyme au mot prévoyant, ou le fait d'être prévoyant, c'est être prudent. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça m'intéresse. Être prudent, être précautionneux, être réfléchi, et finalement être sage. Et c'est le roi Salomon, l'homme, vous le savez, le plus sage au monde, qui nous invite à considérer un minuscule insecte. Vous savez de qui je veux parler ? La fourmi. Et la fourmi, elle manifeste naturellement de la prévoyance. Et on le voit au travers d'un verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 6, les versets 6 jusqu'au verset 8. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8. Et nous lisons ce que exprime le roi Salomon. Il l'adresse particulièrement aux paresseux. Mais je pense que ce message, ce verset, s'adresse à tous. Et il dit quoi ? Il dit « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. » Et devient sage. Parlant de la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pourtant, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et Salomon, comme j'ai dit, rappelle, surtout à l'adresse du paresseux, que la fourmi prépare en été ce qui sera sa nourriture et surtout en prévision des mauvais jours de l'hiver. Et je nous pose la question ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous sommes également prévoyants et prévoyantes ? Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, cette pandémie qui fait fureur, je vous assure que beaucoup se tournent vers des assurances prévoyance par rapport à toutes sortes d'aléas qui pourraient arriver, peut-être la perte d'un travail, tomber dans le chômage pour certains. Donc par crainte de la mort, prendre ses assurances vie, assurances prévoyance, pour prévoir l'avenir. De la même manière, nous chrétiens, nous devrions en faire autant. Nous devrions faire preuve de prévoyance concernant Dieu et les choses de Dieu. Et concernant le sujet qui nous intéresse ce matin, concernant le retour du Seigneur. Nous sommes venus, et c'est une grâce d'être en présentiel. C'est une grâce de se retrouver, de pouvoir chanter comme on l'a chanté ce matin. Mais est-ce que nous sommes prévoyants concernant le retour du Seigneur qui est imminent, frères et sœurs ? Chaque jour de notre vie chrétienne devrait servir à nous préparer au retour du Seigneur. Mais comme je l'ai dit dimanche dernier, vous savez, le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils ne se préparent pas au retour du Seigneur. Pourtant, ils sont sincères. Ils chantent comme nous, ils prennent le pain et le vin comme nous, mais ils ne se préparent pas. Et pourquoi ? Peut-être pour deux raisons. Soit ils ignorent, ou ils ne se sont pas attardés sur ce qu'est un événement essentiel dans la vie du chrétien. Comme j'ai dit, l'aboutissement de toute notre vie chrétienne. Ils ne se sont pas attardés, ils ignorent ces choses. Ou bien d'autres, et ça c'est plus grave, parce qu'ils ne croient pas. Et je l'ai dit dimanche dernier, on peut être devant la parole de Dieu et accepter tel chapitre et puis juste le chapitre suivant, le refuser. Oh non, ça c'est trop gros, ça c'est trop flagrant. Quoi ? Des millions de personnes en un instant vont décoller de la terre, vont disparaître ? Oh, ça c'est trop gros ! Et vous ce matin, croyez-vous au retour du Seigneur ? Et voyez-vous, ces mêmes chrétiens, eh bien, qui ne croient pas, ou qui croient à moitié le Seigneur, eh bien, ils vivent dans l'insouciance plutôt que dans la prévoyance. Et Jésus a déjà prévenu ses disciples concernant son retour. Il a dit quoi ? Regardez dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Regardez juste, Jésus nous a tout dit d'avance. Et c'est pour ça qu'on a besoin eh bien, de se préparer avec tout ce qu'il nous a donné. Il dit, Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Frères et sœurs, vous avez entendu ce que Jésus a dit ? Il en sera de même. C'est pas peut-être, c'est pas, non, c'est une affirmation. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes encore dans cette génération de Noé où les gens vivent dans l'insouciance. Alors je peux le comprendre des inconvertis. Mais pour nous, chrétiens, nous avons besoin d'être alertes. Nous avons besoin eh bien, d'être des hommes et des femmes prévoyants, prévoyantes. Que Dieu nous garde de tomber dans la folie de l'insouciance. Au contraire, qu'il nous aide à manifester la sagesse de la prévoyance. Car voyez, la vérité, je l'ai dit même en introduction tout à l'heure, nous sommes en voyage. Est-ce que vous ne voyez pas mes bagages là ? Ils sont invisibles, mais je suis en voyage. Je suis en voyage. On le sait, tous les biens ici-bas sont appelés à périr, à disparaître. Même tout ce qu'on peut acquérir, frères et sœurs, béni soit Dieu pour toutes les bénédictions que Dieu pourrait nous accorder. Les projets, parce qu'on prévoit finalement. On n'arrive pas à prévoir l'éternité, mais on arrive à prévoir des choses terrestres. Et c'est bien d'avoir des prévisions, des projets pour ici-bas. Et c'est bien, eh bien de se réjouir de toutes les bénédictions que Dieu pourrait nous accorder. Mais de grâce, frères et sœurs, ne nous y attardons pas. Ne nous y attachons pas. Même l'homme le plus sage au monde va dire, mais tout est vanité ici-bas. Tout passe. Par contre, ce que nous savons, c'est que Dieu a en réserve pour ses enfants une demeure éternelle. Et c'est ce que d'ailleurs appelle l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de la ville de Philippe. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 à 21. On va le lire. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons qui ? Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Et verset 21 précise « qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps corruptible, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Mes amis, ce sera merveilleux, ce sera extraordinaire. Et là, on pourra, oui, baisser la garde. Là, on pourra baisser les armes. Il n'y aura plus lieu d'avoir des armes parce que nous serons du côté du vainqueur des vainqueurs et nous serons, alléluia, éternellement, d'éternité en éternité, dans cette cité qu'il a préparée pour ceux et celles qu'il aime. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes que de passage sur la terre. Juste le temps d'une vie. Or, certains, c'est un peu plus long que d'autres, mais juste le temps d'une vie. Notre vie terrestre est juste le hall d'entrée qui nous introduira dans l'éternité. Notre vie terrestre est aussi le seul moment propice pour préparer notre éternité. Je l'ai déjà raconté ici, c'est l'expérience de mon ancien patron. Il m'a marqué, je peux pas faire autrement. Un patron qui savait eh bien, diriger ses salariés. Il en avait d'ailleurs plusieurs centaines, répartis un peu partout sur toute la France. Un homme très bon, bienveillant, qui s'est dépensé corps et âme pour faire fructifier eh bien, son entreprise qui n'avait de cesse de grossir. Un homme avenant, un homme plein de bonté. Et je me rappelle ce jour où Dieu m'avait poussé à pouvoir lui offrir une Bible. Et je craignais peut-être même eh bien, sa réaction. Et cet homme m'a dit, mais monsieur Prudent, vous ne savez pas combien, eh bien, quel bien vous avez pu me faire en m'offrant cette Bible. J'en attendais depuis longtemps, depuis longtemps. Et il m'a dit merci. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu sais ce que tu fais ? Quelqu'un l'a dit dans une de ses prières, on a besoin, même dans ce temps particulier, de pouvoir, eh bien, alléluia, continuer à évangéliser. Et voilà que cet homme, il s'appelait André, il a été stoppé net dans ses prévisions de voir eh bien, encore cette entreprise grandir et même passé sur le plan international. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une tumeur à la tête. Très rapidement, il a été hospitalisé sur Marseille. Et moi, j'étais à l'époque sur Toulouse. Et je me rappelle ce moment où, au téléphone, parce que quelquefois, je l'appelais. Il ne pouvait pas répondre à tout le monde, mais il acceptait que je lui parle. Et pour moi, c'était un honneur. Et il m'a dit, mais Joël, voilà ce qu'il a dit. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Un homme qui était honnête avec lui-même. Mais il m'a dit la chose suivante. Joël, j'ai dépensé toute mon énergie, tout mon temps à travailler, à faire fructifier mon entreprise. Mais je me rends compte que maintenant, que je n'ai pas pris le temps de penser à mon éternité. Je n'ai pas pris le temps de résoudre la question du salut de mon âme. Et pour faire vite et faire court surtout, par la suite, le Seigneur lui a permis de réellement faire la paix avec le Seigneur. Étonnamment, il y avait un pasteur qui souvent, régulièrement, venait le visiter, qu'il ne connaissait pas, mais ils se sont rencontrés. Certains pourraient dire le hasard, mais ce n'est pas le hasard. Et cet homme, j'en suis convaincu, je le rencontrerai dans le ciel de gloire. Frères et sœurs, soyons prévoyants les uns les autres. Jésus lui-même a dit, dans Marc chapitre 8, verset 36, ne le cherchez pas, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Mais voilà, certaines personnes ne comprennent pas la valeur de l'âme. Ton âme est plus importante que ton corps. Parce que si le corps retourne à la poussière, quoique il va connaître aussi une résurrection, ton âme, elle, après ta mort, directement, va dans son lieu d'éternité. Et c'est soit cette éternité, tu la passeras avec le Seigneur, ou cette éternité, tu la passeras dans ce lieu de tourment, qui, je veux le préciser, au départ n'était pas préparé pour l'homme, mais était préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, frères et sœurs, soyons des chrétiens sages et prévoyants, en mettant dans nos vies la priorité des priorités à nous occuper du salut de notre âme, ceci afin d'être fin prêt. Parce que Jésus l'a dit au travers d'un des dons spirituels ce matin, il revient bientôt. Il est à la porte. Il est là. Il est moins une sous le cadran. Alléluia de l'horloge du monde, le Seigneur est à la porte. Je termine ce premier point en déclarant que celui qui est le maître ou l'expert en la matière de prévoyance, c'est Dieu notre Père Céleste. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand je réalise que la chute de l'homme était actée dans le jardin d'Éden, Dieu, dans sa préscience, mais aussi à cause de son amour pour chacun d'entre nous, avait déjà préparé un plan de salut pour chacun d'entre nous. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais il rajoute au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Frères et sœurs, ne pensons pas une seule seconde que le Seigneur a été surpris de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il était parfaitement au courant. Il est Dieu de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Et croyez-moi, dès la fondation du monde, parce que je crois en la parole de Dieu, Dieu avait déjà prévu un sauveur. Il avait même anticipé, avec la création du monde, de pouvoir, à côté de cela, prévoir pour tous ceux qui croiraient en lui un merveilleux paradis. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même exprime au travers d'une de ses paraboles dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Le roi, et pour nous, nous comprenons, pour nous, le roi c'est Jésus. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Tout est déjà prêt. Dieu a tout anticipé. Parce qu'il est le maître, il est l'expert en la matière concernant la prévoyance. Alors si notre Père Céleste est prévoyant, nous ses enfants, on dit bien tel père, tel fils, non? On pourrait dire tel père, telle fille, c'est pareil. Nous aussi également soyons prévoyants parce que le Seigneur y revient à la porte. Deuxième qualité qui va nous aider à nous préparer au retour de Jésus, c'est le fait d'être vigilant. On a parlé de prévoyance, mais il faut aussi que nous soyons les uns les autres vigilants. Alors, qu'est-ce qu'une personne vigilante? Une personne vigilante, c'est une personne qui fait preuve d'une attention dévouée. C'est une personne qui veille avec beaucoup de soin sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Et voici donc une autre qualité qui va nous permettre de bien nous préparer au retour de Jésus, être vigilant. Je crois même, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la vigilance, on la retrouve partout dans notre vie chrétienne. Il faut constamment qu'on soit vigilant, frères et sœurs. Nous sommes les brebis du Seigneur, nous sommes partie intégrante du petit troupeau du Seigneur. Et il y a des loups qui sont là derrière, autour, et qui essayent eh bien, d'en happer plusieurs. Et on a besoin à cause de cela eh bien, d'être vigilant, veiller, afin de ne pas être, par exemple, influencé par l'esprit de ce monde. Et à cet effet, Jésus avait raison, je crois que je l'ai dit dimanche dernier, Jésus qui, eh bien, à un moment donné, au travers de cette prière qu'on appelle sacerdotale, s'est exprimé à son Père et a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » D'autres versions disent de les garder, de les préserver de l'esprit de ce monde. Et je suis surpris quand je vois certains chrétiens qui, de manière très simple, très délibérée, embrassent toutes sortes de courants d'idées ou de pensées que le monde nous offre. Des idées ou des pensées qui sont eh bien, en opposition avec ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi je ne négocierai jamais la parole de Dieu. Et ce qui prime pour ma vie personnelle, eh bien, c'est ce que me dit Dieu. Et si eh bien, on me présente autre chose, eh bien, je refuse. Je refuse. On a besoin pour cela eh bien, de veiller à ne pas être influencé par l'esprit de ce monde. On entre dans toutes sortes de compromis. Et puis peut-être par sentimentalisme ou peut-être même au nom de la tolérance, on accepte des choses que Dieu déclare comme des abominations, frères et sœurs. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que nous devons avoir pour eh bien, tout ce qui nous entoure. Mais avec Dieu, il appelle un chat, et un chien. Amen ou pas amen, frères et sœurs. Veillez également sur notre enseignement. Par quoi nous laissons-nous enseigner? Vous savez, on est enseigné au travers des sens, des cinq sens que nous avons. On peut être enseigné par nos yeux, on peut être enseigné par nos oreilles, on peut être enseigné eh bien, par ce qu'on peut même goûter. Si vous goûtez un piment, votre esprit va enregistrer le goût du piment. Et la prochaine fois que vous serez en présence d'un piment, vous allez recevoir l'enseignement en disant « Non, moi ça, je ne touche pas. » On est enseigné eh bien, par les cinq sens. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu dis? Parce que même nos bouches, eh bien, deviennent un enseignement pour l'autre, mais un enseignement pour nous-mêmes déjà. Parce que de toute façon, ce que tu sèmes, tu le récolteras. On a besoin de veiller sur notre enseignement concernant notre alimentation spirituelle. C'est la parole de Dieu qui prime. Et je l'ai dit la dernière fois, je le redis. C'est navrant, après toute une vie chrétienne, de n'avoir peut-être pas terminé les quatre évangiles, de n'avoir peut-être jamais lu le Nouveau Testament. Et ce n'est même pas tant le fait de lire, mais de comprendre, de plonger les regards, nous dit l'épître de Jacques. C'est ça qui est important. C'est ça qui aura du poids. C'est ça qui va nous nourrir pleinement. Et tout cela afin que nous soyons inébranlables et forts lorsque les fausses doctrines viendront frapper à notre porte, lorsque les faux docteurs, les faux prophètes, parce qu'il y en a, frères et sœurs. Et quelquefois, c'est tellement grossier. Et pourtant, il y a des chrétiens qui ne voient pas. Parce qu'ils ne se sont pas laissés enseigner par la parole de Dieu. Il faut qu'on soit des connaisseurs de la parole de Dieu, des experts de la parole de Dieu. L'auteur du livre du psaume 119 va dire « Mais je suis plus enseigné, plus instruit que mes maîtres. » Ce n'est pas une compétition, mais il y avait une telle soif dans son cœur qu'il voulait constamment plonger ce regard dans la parole de Dieu afin, eh bien, en retour, d'être ferme et inébranlable. Tu seras ferme et inébranlable, tu marcheras jusqu'au bout, si et seulement si. Eh bien, tu veilles sur ton enseignement. On pourrait continuer comme ça la liste. Veillez à ne pas succomber à la tentation. Qui n'est pas sujet à la tentation? Le pasteur? Nous sommes tous sujets à la tentation. Et la tentation, c'est quoi? C'est lorsqu'on est chatouillé, titillé par notre propre convoitise. On a tous des convoitises, on a tous des travers, frères et sœurs. Notre vieille nature, elle est malheureusement eh bien, pas si loin que ça. Et elle peut, à un moment donné, ressurgir pour essayer de reprendre ses droits sur nos vies. Mais lorsque la tentation vient, avec la grâce de Dieu, eh bien nous sommes capables, alléluia, de dire non. Un peu comme David qui a dit dans Psaume chapitre 18 et le verset 24, regardez ce qu'il dit. Et pourtant, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, psaume chapitre 18 et le verset 24. J'ai été sans reproche envers Dieu. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Vous voyez, l'adjectif là, qui est là, est possessif, mon iniquité. Il ne parle pas de l'iniquité de l'autre, il parle de « je me suis tenu en garde contre mon iniquité ». On a des failles, on a des faiblesses, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer au héros. Le héros, c'est Jésus-Christ. Mais par contre, eh bien, tant qu'on reste caché en lui, eh bien, on est capable d'être fort. Lorsque eh bien, notre vieille nature voudrait reprendre le dessus, eh bien, nous lui disons non. Et au contraire, nous lui signifions qu'il doit rester crucifié. Alléluia sur la croix, que Dieu soit béni et glorifié. Veillez eh bien, aussi sur les membres de nos familles. Veillez sur les frères et les sœurs. J'aurais aimé entendre un amen. J'ai pas dit surveiller. J'ai dit veiller. Et pour appuyer ce que je dis, regardez Hébreux chapitre 10, verset 24. Vous relirez tranquillement tous ces passages. Veillons les uns sur les autres. Et il explique pourquoi. Pas pour entrer, s'ingérer dans les affaires d'autrui. Frères et sœurs, occupez-vous de vos affaires. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? Et je le dis avec amour. Occupons-nous de nos affaires. Par contre, il dit, veillons les uns sur les autres pour, alors il donne la raison, pour nous exciter à quoi? À la charité, autrement dit, à l'amour et aux bonnes œuvres. Un peu comme disait Caïn à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, on connaît la réponse, oui, nous sommes les uns les autres des gardiens. Et nous devons veiller avec amour sur mon frère, sur ma sœur. On doit veiller sur nos propres familles. Quel est cet homme qui pourrait dire « mais moi je veux servir l'Église, je veux servir Christ, etc. » s'il ne s'occupe pas de ses propres enfants, qu'il ne s'occupe pas de son propre conjoint? C'est un non-sens. Celui qui ne s'occupe pas de ses proches, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et si nous ne l'entendons pas ici-bas, nous l'entendrons de la part du Seigneur. Veillez sur les membres de nos familles, sur nos frères et sœurs dans la foi. Et puis, bien sûr, nous devons redoubler de vigilance à l'égard du diable. Jésus l'a déjà désigné, il a dit qu'il est le voleur, celui qui vient dérober, égorger et détruire. Et nous l'avons entendu au travers d'un don spirituel qui invitait eh bien, peut-être une personne, plusieurs, à pouvoir renouveler le don. Et le diable fera tout pour essayer de dérober tous qui pourraient eh bien, correspondre à les bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Il veut dérober notre salut. Il veut dérober votre joie, votre enthousiasme, votre zèle. Il veut eh bien, enlever votre paix. C'est lui eh bien, qui est le dérobeur eh bien, de toute pureté et toute dignité. C'est lui qui veut enlever toute bonne conscience de notre esprit. C'est lui eh bien, qui veut nous enlever nos dons et nos talents. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte ce que Jésus nous dit ce matin. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 11, la recommandation suivante. Jésus qui parle, il dit « Je viens bientôt. » Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens, mon frère, ma sœur, jusqu'au bout du voyage. Retiens, il y a des gens qui étaient équipés, qui étaient bénis par le Seigneur. Et au fur et à mesure de la marche, à cause des difficultés, des adversités, et surtout à cause du diable, ils se retrouvent dépouillés et nus. Et bien sûr, pas du tout prêts pour le retour du Seigneur. Et enfin, il faut... Veillez parce que Jésus-Christ revient bientôt chercher les siens d'une manière soudaine. Je l'ai dit dimanche dernier, il reviendra d'une manière soudaine. Frères et sœurs, si on savait tous l'heure exacte où Jésus reviendrait, je vous assure, corona ou pas, on serait tous là. Masque ou pas, on ferait ce qui a lieu de faire. Il y aurait beaucoup de balayage, beaucoup de changements. Mais le Seigneur met tout le monde sous un même piédestal. C'est le piédestal de la foi. Qui fait que, eh bien, que le Seigneur vienne le matin ou le soir, on est prêt. Parce que nous croyons, nous avons pris Dieu au sérieux comme on l'a partagé dimanche dernier. Regardez eh bien, ce que Jésus dit et il souhaite que nous soyons veillants quand il reviendra, pas endormis. Alors, je ne dis pas, à des moments il faut savoir dormir physiquement. Et ce n'est pas sur ce plan-là que je suis en train de vous parler. Je vous parle de l'endormissement spirituel. Parce qu'on peut être même ce matin-là, ici présent, et être endormi spirituellement. Vous savez ce que cherche le diable dans sa subtilité? Il cherche à nous occuper. Pour certains, il les berce. C'est ce qui s'est passé pour Samson. Samson avait un potentiel. Et le diable l'a endormi sur les genoux du péché. Et quelquefois, il nous occupe. Paf, il ouvre la télé, il nous met devant, et on ne fait plus de bruit. On est inactif. Frères et sœurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même par rapport à la télé. Mais je crois qu'on sait eh bien, ce qu'il y a lieu de faire. Et si on prend Dieu au sérieux, eh bien, on mettra la priorité des priorités. En tout cas, eh bien, de dégager un maximum de temps pour chercher la face de Dieu, pour nous préparer comme il se doit. Amen ou pas, amen, frères et sœurs. Il faut me dire si je dis vrai ou pas. Regardez ce qu'il est dit dans Marc, chapitre 13, versets 35 à 37. C'est Jésus qui parle et qui dit, à qui veut bien entendre, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. » Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Et qu'est-ce qu'il dit ? Veillez. C'est important de veiller. Mon frère, il y a un chant qui dit « Veille au matin, veille jusqu'au soir. » Parce que le Seigneur, il est à la porte. Je voudrais conclure avec une troisième qualité, une troisième et dernière qualité. Vous avez compris, la liste n'est pas exhaustive. Mais pour ce matin, pour nous, ce matin, il est bon de s'arrêter encore sur cette troisième et dernière qualité qui va nous permettre donc de nous préparer au retour de Jésus. Quelle est cette qualité ? C'est le fait d'être aimant. On a vu qu'il faut être prévoyant, on a vu qu'il faut être vigilant, mais je crois qu'il est important aussi que nous puissions nous rappeler ce matin qu'il est important que nous soyons aimants. L'amour que nous avons pour notre Seigneur, voici encore ce qui nous permettra eh bien, d'être fin prêt pour l'enlèvement de l'Église. Je crois que notre amour pour Jésus, c'est ce qui va aussi nous motiver, quelque part, à être prévoyants. Et c'est parce que j'aime le Seigneur eh bien, que je vais être veillant par rapport à son retour. Notre amour pour Jésus, c'est aussi ce qui va nous donner d'être patients jusqu'au retour du Seigneur. Vous savez, les premiers disciples, l'Église primitive attendait déjà le retour du Seigneur. Et déjà, eh bien, plusieurs milliers d'années sont passées et Jésus n'est toujours pas revenu. On a une explication dans l'épître de Pierre où eh bien, Pierre dit « Mais c'est à cause eh bien, de la dureté de votre cœur et c'est parce que Dieu tout simplement use de patience envers tous. » Mais croyez-moi, c'est arrêté. La date, le Seigneur lui-même eh bien, la connaît et il viendra et il ne tardera pas. Mais l'amour nous permet d'être patient et d'attendre eh bien, ce divin événement. Dans mes notes, j'ai pensé à ce jeune homme, Jacob. Moi, il me passionne, ce Jacob, parce qu'il a, c'est vrai, commencé mal, mais il a bien terminé, puisque la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, il adora appuyer sur son bâton. Ah ! Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et ce jeune homme, à un moment donné, Jacob a été amené vers son oncle Laban, et ce Jacob qui travaillait, qui était un jeune homme sérieux, a repéré une des filles de Laban qui l'intéressait, c'était la cadette. Une certaine, allez, aidez-moi. Rachel, j'ai entendu, c'est bien. Rachel. Et il s'est fait un contrat entre Laban et puis Jacob, son neveu. Et il était question que Jacob puisse accepter de travailler, et j'ai envie de dire d'une manière gratuite, pendant 7 ans. Et en retour, il pourrait épouser la fille cadette Rachel. Et je suis étonné de voir la puissance de l'amour. Quand elle nous anime, je suis étonné de voir eh bien, ce qu'il est dit de ce jeune homme, Jacob. Genèse, chapitre 29, verset 20. Regardez avec moi. Regardez rapidement. Premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 29, verset 20. « Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'il l'aimait. Pourquoi ? Parce qu'il l'aimait. » Et vous le savez, pour la petite histoire, que par la suite, il a dû rempiler 7 autres années parce que Laban était tout aussi rusé que Jacob. Donc il a fallu au total 14 ans pour acquérir enfin celle que son cœur, alléluia, aimait. Il y a un dicton qui dit « quand on aime, on ne compte pas ». Eh bien, mes amis, j'ai l'impression que cette histoire est là pour l'illustrer. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Quand on aime, et surtout quand on aime de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que l'amour divin, l'amour agapé, est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Cet amour, on ne peut pas le créer. Mais plus on passe du temps devant le Seigneur, cet amour nous envahit. Et c'est un amour qui est patient. C'est un amour qui est plein de bonté. Cet amour qui ne se réjouit point du mal, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui est bienveillant. C'est un amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, qui pardonne tout, frères et sœurs. Un amour d'ailleurs qui ne périra jamais. Un amour que même les grandes eaux ne peuvent éteindre. Voici donc la qualité, à mon sens, par excellence, qui doit nous animer afin d'être prêts pour le retour du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tu es heureux ce matin. Et je crois que quelqu'un qui aime le Seigneur de cette manière-là, c'est impossible. Il ne pourra pas manquer le retour du Seigneur. Parce que son amour sera tel qu'il sera désireux de voir de ses yeux celui-là même qui a accepté de mourir à la croix pour lui. Celui-là même qui a accepté la mort de la croix pour que, eh bien, en retour, nous soyons pardonnés et, alléluia, réconciliés avec Dieu le Père. Nous aspirerons à sa venue. Quand on est amoureux, c'est ça. On est désireux, eh bien, d'attendre, eh bien, l'être aimé qu'il soit présente devant nous et qu'on puisse, eh bien, exprimer notre amour, qu'on puisse se réjouir. Mais peut-être, et je veux terminer par cela, peut-être que nous avons besoin de reconsidérer la ferveur de notre amour pour Dieu ce matin. Ça sert à ça, après tout, la parole de Dieu. De nous remettre en cause, de nous placer devant la vérité de cette parole. Peut-être que ce matin, le Seigneur Jésus a besoin de nous poser la question qu'il a posée d'ailleurs à 3 reprises à, bien un de ses disciples. Vous savez de qui je veux parler, Pierre. Et avec une parole bienveillante, je vois le Seigneur se tourner là, à travers le feu, parce que Pierre était en face de lui. C'est moi qui le dis, ça. Pierre, m'aimes-tu? Et il le dit une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et il rajoute encore une troisième fois, et c'est ce qui est, je peux le comprendre, pour Pierre inquiétant, Pierre, m'aimes-tu? Et vous le savez, Jésus, jamais pour écraser, jamais pour enfoncer le clou là où peut-être ça fait mal. Non, tout simplement, à ce moment-là, Jésus voulait apporter un enseignement, non seulement pour Pierre, mais tous ceux qui étaient là présents, et pour nous encore, en ce 21e siècle, pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien de plus important que l'amour que nous avons pour Dieu. On peut être là et faire les choses parce qu'on nous demande de les faire, mais il n'y a aucun amour. Et quand on a de l'amour, eh bien, on sait garder les commandements. C'est Jésus lui-même qui a dit, si vous m'aimez, alors vous verrez, vous garderez mes commandements. Et d'ailleurs, pour savoir, eh bien, pour tester, eh bien, notre amour pour Dieu, regardez si vous mettez en pratique les commandements de Dieu. L'amour est important. Si Jésus a posé donc à 3 reprises cette question à Pierre, c'est certainement pour lui dire, voilà ce qui va te tenir debout. Voilà ce qui te donnera d'être fin prêt pour le retour du Seigneur. Non seulement pour continuer la marche avec Dieu, mais aussi pour être fin prêt au retour du Seigneur. Pourquoi je dis cela? Regardez ce qu'il est dit par la bouche de l'apôtre Paul, oui. Quand dans son dernier courrier, il s'adresse à un jeune homme du nom de Timothée, et on lit dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7, ce qui est là projeté derrière mon dos. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Vous vous rappelez, hein, on l'a lu dimanche dernier. Mais regardez le verset suivant, le verset 8. Levant certainement les yeux, il va dire « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront, quoi ? Aimé son avènement. » frères et sœurs, aimer l'avènement du Seigneur, c'est aimer, alléluia, le Seigneur Jésus. Ça revient à aimer le Seigneur Jésus, c'est pas autre chose. En fait, ce verset nous révèle que l'attente du retour de Jésus ne peut être vécue que dans l'amour. Et seuls ceux qui aimeront le Seigneur de tout leur cœur, leur âme, leur force, leur pensée, décolleront, frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus parle de vainqueur dans le livre d'Apocalypse. Ces temps-ci, même poussé par ma femme, mon épouse, je suis encouragé à lire le livre d'Apocalypse. Alors je le lis, je le relis, je le relis, je le relis. Et il nous est fait mention de vainqueur. Un vainqueur, vous savez ce que c'est qu'un vainqueur? Et le vainqueur, c'est celui qui a gardé cet amour, qui l'a entretenu. La première église qui reçoit une recommandation de la part du Seigneur, c'est l'église d'Éphèse. Et il me semble que c'est cette même église où Jésus a dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et nous sommes là ce matin pour que le Saint-Esprit ravive cet amour. Nous sommes là ce matin pour dire, mais Seigneur, peut-être que je me suis laissé aller dans tel ou tel domaine. C'est quoi la priorité de ta vie? Là où se trouve ton trésor, là se trouvera aussi ton cœur et vice-versa finalement. Mais si Jésus est ton trésor, alors là aussi se trouvera ton cœur et toute ton affection. Que dire en conclusion? Certes, Pour bien nous préparer au retour de Jésus, nous avons besoin de prévoyance. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes prévoyants. C'est bien, certains disent, je marche pas à pas, au jour le jour. Oui, pour certaines choses, oui. Pour d'autres, il faut projeter. Il faut se projeter, il faut anticiper les choses, il faut prévenir. Et on ne joue pas avec les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et il faut de la prévoyance. On l'a vu, il faut qu'on soit vigilant, parce que le diable fera tout pour essayer de nous stopper dans notre marche chrétienne. Mais ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est être aimant. Et aimer, c'est ressembler à Dieu, parce que Dieu est amour. Voilà ce que nous apprenons de lui. Et ma prière, c'est que nous puissions voir notre amour grandir de plus en plus en qualité, en quantité dans notre cœur, afin non seulement que nous puissions être attachés à Dieu. C'est ça la piété. La piété, par définition, c'est l'attachement à Dieu. Mais cet amour va aussi rejaillir sur notre prochain. On ne va pas se poser la question, est-ce que je dois l'aimer ou pas ? Parce qu'on a compris que Dieu même nous invite à pouvoir aimer même notre ennemi. Oh, c'est puissant ça. Et ça, ce programme, il m'intéresse. Et ça, ça fait partie de la loi, alléluia, du royaume des cieux. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Baissons la tête, alléluia, en ces instants. Seigneur, tu es là, c'est indéniable. Et je suis content parce que j'ai été ce serviteur, oui, qui a exécuté ce que tu lui as demandé de faire. Ce que tu m'as dit de dire, je l'ai dit. Et tu sais exactement qui devait être là ce matin. Et plus on avance dans le temps, plus les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et tu nous demandes de nous positionner. Bientôt, les cœurs vont se révéler. Et dès ici-bas, Seigneur, tu permettras de faire la distinction entre ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Entre les justes et les injustes. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Tu prépares ton Église. Tu viens et tu émondes, tu coupes, tu ôtes, tu arraches. Et en même temps, tu protèges, tu émondes, tu purifies ton Église. Et nous voudrions être de ceux et de celles que tu purifies encore en ce matin. Parce que nous voudrions être fin prêts. Quel honneur tu nous as choisis. Tu as parlé sur nos vies, tu as fait de nous de tes enfants. Quel bonheur, quelle grâce. Et nous voudrions prendre au sérieux tes paroles. Et pour cela, réformer nos voies. Réformer nos cœurs. Et Seigneur, mon Dieu, tu nous l'as parlé. Et ce matin, tu nous as invités aussi à reconsidérer cet amour pour toi. Seigneur, viens transformer, changer nos vies. Donne-nous de l'amour pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, pour la gloire de ton nom. Amen, amen.